400 лет назад нашим
работаем. Нет, они просто плохо, к сожалению, так слышно.
Он работает немножко, я буду ближе, да? Несколько лет назад наш дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.
Alors, il y a quelques années, notre maison de l'immigration qui porte le nom de Александр Солженицын à Moscou.
Вместе со Страсбургским университетом.
En collaboration avec l'université de Strasbourg.
Начали программу, посвященную изучению творчества французских писателей русского происхождения.
Débuter la nouvelle programmation de l'étude de des écrivains français d'origine russe.
Et со стороны Страсбургского университета эту программу координируют и являются ее инициаторами госпожа Евелина Дермайн и госпожа Татьяна Викторова.
Alors c'est Madame Tatiana Viktorova et Madame Evelyne Amberlein qui dirigent cette programmation de la part de l'Université de Strasbourg. Et de la part de la maison d'immigration d'Alexandre Solzhenitsyn, c'est Madame Dubrovina qui dirige ce projet.
Был осуществлен, это была конференция русского зарубежья в ноябре прошлого года.
Le lancement de ce programme, c'était la conférence de début de l'année dernière.
Это была очень удачная, интересная конференция. 12 докладчиков из Англии, Франции, России.
Ce colloque avec beaucoup de succès. Il y avait 12 rapporteurs de France, de de partout.
Я позволю себе несколько сказать о нашем доме русского зарубежья.
Alors, permettez-moi de vous évoquer un peu notre maison d'immigration d'Alexandre Solzhenitsyn.
Он был создан в 95 году.
Il était fondé en 1995.
Соединенными усилиями правительства Москвы, Русского общественного фонда Александра Солженицына и Парижского издательства «Имко Пресс».
Avec l'aide de la maison d'édition «Имко Пресс», du gouvernement de Moscou et de фондation Александра Солженицына.
Александр и Наталья Солженицына и Никита Струве сыграли огромную роль в становлении и в создании дома.
Monsieur et Madame Alexandre et Natalia Solzhenitsyn ainsi que le professeur Nikita Struve ont contribué beaucoup à la fondation de notre centre.
Основная задача дома соединить две России, Россию.
Donc l'objectif c'est de mettre ensemble les deux Russies différentes.
Россию в своих границах, Россию в России.
Alors la Russie qui se déploie dans ses frontières et l'autre Russie qui est en exil.
И преодолеть ту катастрофу, хотя бы частично, которая случилась с Россией в 20-м
столетии. Notre objectif c'est de dépasser, de faire oublier la catastrophe qui s'est passée avec la Russie dans le 20e siècle.
И дать возможность современному русскому обществу познакомиться с тем богатейшим наследием, которое было сохранено и накоплено развитой миграцией.
И donner la possibilité à la société russe de prendre connaissance avec toute cette grande et riche héritage qui était laissé par les Russes en exil.
Дом ведет разные программы, вот то, ради которого мы собрались, это одна из частей, уже как бы глубинное изучение второй России.
La maison d'émigration, il mène toujours une large programmation culturelle, dont aujourd'hui on va parler dans des projets, des nombreux projets.
Изначально на этапе становления нашего дома, перед этим было создано издательство «Русский путь» еще в 91 году.
Donc au début, la création de la maison d'immigration a été aussi accompagnée par la création de la maison d'édition La Voix russe.
Огромную роль сыграла посольство Франции.
L'ambassade de France a joué le grand rôle.
Которая Господин Пьер Морель,
Monsieur Pierre Morel, qui était à ce temps-là l'ambassadeur son excellence, qui nous a aidé dans cette démarche. C'est à cette époque-là qu'il était en mission à Moscou. C'était un de nos piliers. Tout nos succès, on doit à lui et au soutien qu'il nous a rapporté. Merci, Monsieur Morel. Alors, on passe la parole à Monsieur Morel. Merci.
Merci, cher Monsieur Maskin.
Спасибо, господин Маскин.
Juste quelques mots pour expliquer le lien et comment il s'est construit.
Буквально несколько слов для того, чтобы объяснить, какая связь и каким образом она была создана.
Entre l'ambassade de France et la maison de l'immigration France Génicie.
La traduction est obligatoire heureusement, malheureusement. Donc si personne n'a pas besoin, on doit faire la traduction quand même. Oui. Donc.
Si, je crois que c'est bon comme ça.
Ça va.
Très bien. Alors, je dois commencer par quelqu'un qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui est trop fatigué pour nous rejoindre. C'est Nikita Strouvé, qui aurait dû être là ce matin, malheureusement. Et nous lui souhaitons de retrouver toutes ses forces dès demain matin, mais aujourd'hui, il est épuisé. Je viens de lui parler.
Итак, сейчас мы немножко поговорим о тех связях, которые связывали в то время посольство Франции и Дом русского зарубежья, и связывают до сих пор. Но для начала обязательно надо упомянуть самого главного человека, который играл огромную роль, это Никита Струве, который, к сожалению, не очень хорошо себя чувствует. Господин Морель говорил с ним по телефону. Он был готов для того, чтобы прийти и присоединиться к нам, но все-таки его состояние здоровья ему это не позволило.
Et donc, dans la ligne de ce qu'a rappelé M. Maskin, notre idée a été de nous associer entre la diffusion de la littérature française à partir de 1992 et le retour de la Russie, de l'immigration en Russie.
Основная миссия в создании Дома русского зарубежья французское посольство видело в том, чтобы для того, чтобы распространять французскую литературу, которая публиковалась во Франции, начиная с 1912 года, и вернуть русских авторов к себе на родину.
И à ce moment-là, nous avons fait de grandes tournées à travers la Russie, lui pour présenter ses auteurs que l'on ne connaissait à peine en Russie, on en avait entendu parler. Que ce soit Bounin, Remizov, Tefi, Zaitsev.
Мы проехали по России, мы осмотрели, что же было предложено тогда в то время, и увидели, что таких авторов, как Бунин, Тефи, Зайцев, их не так хорошо даже знали. Ремизов.
Ремизов, да. Également ces grandes figures du renouveau de la théologie orthodoxe, de la tradition russe, comme le père Булгаков, Флоровский, et aussi des figures comme Бердяев.
Ну и, конечно, тут даже не обсуждается, что не были совсем неизвестны великие религиозные теологи и теоретики, такие как отец Сергей Булгаков, Павел Флоренский и Бердяев.
Ensemble donc, allant de ville en ville, nous nous sommes réunis et c'est aussi à ce moment-là qu'est rentré en Russie en 1993 Alexandre Solzhenitsyn.
Итак, переезжая из города в город, мы понимали, какая ситуация происходит. Таким же образом потом вернулся в Россию Александр Солженицын.
C'est à ce moment-là qu'a été fondée et inaugurée en 1995 la maison de l'émigration russe près de la Taganka.
К этому и было приурочено и был открыт наконец в 1995 году дом русского зарубежья на Таганке.
Avec ma femme, nous étions là et je me souviens à ce moment-là de l'échange émouvant que j'ai eu avec Natacha Solzhenitsyn.
Господин Морель со своей супругой были присутствовали в этот момент
maison, c'était les archives d'Alexandre Isaïevitch, c'est-à-dire ce qui lui avait permis d'écrire La Roue Rouge et une grande partie de son œuvre, des témoignages qu'il avait demandé et recueilli, des milliers et des milliers de documents.
Итак, основа Дома русского зарубежья – это, в первую очередь, архивы Александра Солженицына. Вся документация, которая позволила ему написать «Красное колесо», все документы, которые были им скрупулезно собраны.
И в этот момент, в показании этих этажей, Наталья Дмитриевна мне сказала, «Enfin, un poids, que je porte depuis plus de 20 ans, quitte mes épaules».
И тогда, показывая свои архивы, разложенные по шкафчикам на разных полках, Наталья Дмитриевна Солженицына сказала господину Морелю: «Ну и, наконец, я избавлюсь от этого веса, который я тащу на своих плечах уже много-много лет».
Вы понимаете всю эту жизнь, эти сообщения к Александру Исаевичу? Pendant 20 ans, j'ai eu peur des inondations, des incendies, de quelques catastrophes. Maintenant, c'est sous votre garde. Je suis enfin libéré de ce poids».
Поймите меня тоже. Столько лет я тряслась из-за этих бумаг, потому что могло случиться все что угодно. Потоп, пожар. Именно сейчас я чувствую, что я могу избавиться от этого веса, передаю это все в сохранность.
И c'est à partir de là que cette très belle aventure a commencé. Et évidemment que toutes les émigrations, puisque la France avait été le pôle principal, mais toutes les émigrations, petit à petit, se sont rassemblées, se sont retrouvées à la maison de l'émigration russe, Solzhenitsyn.
И вот так начался этот прекрасный проект, прекрасная авантюра, где встретились не только эмиграции из Франции, там встретились все эмиграции из других стран. Все они встретились в фонде Александра Солженицына, Доме русского зарубежья.
И donc, pour terminer, je dois dire que nous avons vécu de très beaux moments et que devant l'élargissement de toutes les dimensions de ce foyer de culture, eh bien, nous étions heureux d'être présents à l'origine. Et je redis à ce Victor Westfield le plaisir que j'ai eu de travailler avec lui et la joie que je vois le foyer de culture de l'immigration russe prospérer comme il le fait avec lui et avec toutes les équipes.
Из-за этого времени было прожито масса чудесных, замечательных моментов. И как хорошо, что французское посольство было в самом начале, в зарождении, у истоков этого благородного дела. Еще раз господин Морель хочет сказать Виктору Москвину спасибо, что все эти годы они были вместе. Спасибо за ту работу, которую они проделали вместе. Спасибо за все.
Спасибо, господин Морель.
Merci, monsieur Morel.
Дамы и господа, у нас всего лишь час времени, осталось 40 минут. Мы перейдем на язык этого города, этой страны и будем говорить по-французски.
Alors, passons au français.
Никто не возражает.
Parlons français, si vous n'êtes pas contre.
Потому что очень мало времени у нас.
On n'a pas beaucoup de temps. Без перевода, то есть, да?
Да.
Voilà, donc, moi, je vais pas traduire. Si quelqu'un a besoin pour que je me mette à côté ou je parle. Voilà, d'accord.
Госпожа Поленова поможет переводом, кому он нужен. Все эти годы вместе с господином Морелем нам, нашему дому помогала его супруга Ольга Семовна Морель. Мы вам очень признательны и благодарны. И на прошлой нашей конференции, посвященной русскому присутствию в обществе французских писателей, госпожа Морель сделала блестящий доклад, который украсил нашу конференцию. Огромное вам спасибо. Я с большой радостью передаю вам микрофон.
Спасибо. Спасибо, Виктор Алексеевич. Alors, moi je vais parler en français et j'espère que tout le monde comprend.
Oui, comme la mettre le micro à côté de la bouche.
Voilà, ça, c'est pas l'habitude. Voilà. Chers amis, en novembre dernier, comme l'a rappelé M. Mosby, la maison de l'émigration russe du nom d'Alexandre Solzhenitsyn à Moscou, a organisé une conférence sur les écrivains russes, écrivains français, pardon, d'origine russe. J'avais l'honneur d'y participer et je vais raconter les sentiments que j'ai éprouvés quand j'ai reçu la lettre d'invitation. Sur la lettre figurait une longue liste, je la cite partiellement. Henri Troyat, Joseph Kessel, Nathalie Sarraud, Maurice Druon, Elsa Triolet, Dominique de Santi, Michel Vinaver, André Macky. Le sentiment que j'ai éprouvé en recevant l'invitation, c'était la joie, comme toujours quand je dois aller à Moscou. Le deuxième sentiment, c'était le vertige. Qu'y avait-il de commun entre Henri Troyat et Michel Vinaver, entre Nathalie Sarraud et Dominique de Santi, entre la comtesse de Ségur et Victor Serge? Car un seul facteur était pris en compte, l'origine russe, et donc le lien avec la Russie, et dans quelle mesure avec sa culture, avec sa civilisation. Dans tout mon propos, que je vais essayer de faire un peu bref, je regarderai le paysage en surplomb et j'essaierai d'y esquisser quelques allées. Mais avant d'emprunter ces quelques allées, je voudrais signaler deux collines qui sont éloignées de notre paysage central. Et le paysage central se situe au milieu du XXe siècle. D'abord, la comtesse de Ségur, au XIXe siècle. Son père, le comte Fyodor Rostopchine, avait dû quitter la Russie après le grand incendie qu'il avait déclenché pour chasser les Français. Il avait fini par s'arrêter à Paris et il y maria sa fille en 1819 avant de rentrer dans son pays. Sophie Rostopchine épouse à 20 ans Eugène de Ségur. C'est un mariage de raison, mais elle aura 8 enfants et d'innombrables petits-enfants pour lesquels elle écrira ses très célèbres romans. Cette comtesse catholique, convertie à 13 ans par sa mère, écrira bien naturellement dans la langue de son pays d'adoption. Mais elle retrouvera la Russie d'abord dans son domaine principal, l'Élouette. C'est un cadeau de mariage de son père et elle l'a choisi parce qu'elle est pleine des boulots qui lui rappellent le domaine de Voronezh dans son enfance. Son héroïne principale, Sophie, de son propre prénom, comme si elle voulait recréer en Sophie sa propre enfance. Immensément populaire, constamment rééditée, la comtesse de Ségur lit Rostopchine, comme elle prend soin de le mentionner sur toutes ses couvertures, est l'un des écrivains qui eut le plus d'influence sur les représentations de la Russie. Et aujourd'hui encore, on étudie ce mélange de tendresse et de violence qui serait tout russe. Autre relief hétérogène pour notre 21e siècle cette fois-ci, Emmanuel Carrère. Nous l'avions reçu avec mon mari lors de son premier voyage en Russie, ça devait être en 1994. Il était le fils d'Hélène Carrère d'Encausse, mais il ne connaissait pas bien la Russie, peu la langue et assez peu la culture. Il ouvrait les yeux. Il venait d'écrire un roman bien reçu, La Moustache, auquel certains critiques conditionnés par ses origines avaient voulu relever un ton gogolien. Mais c'est bien après que vinrent le roman russe et Limonov. C'est le dernier né dans notre paysage si varié. C'est un écrivain qui n'a perdu aucune Russie, mais qui, au-delà des tréfonds de sa préhistoire réelle, a trouvé en lui de décrire et d'écrire sa Russie. C'est une sorte de relais. Retournons à notre paysage central et empruntons quelques allées. Je distinguerai d'abord les passeurs, ceux qui ont perdu la Russie et qui veulent en transmettre la saveur et la splendeur. Le plus connu est Henri Troyat. Ce jeune écolier français, cet autre Alyosha, le titre d'un de ses romans les moins connus, se veut pour héritage Molière, Racine, La Fontaine, Hugo. Il et il en lit à haute voix pour ses parents tristes quelques pages. Les premières lignes sont en français. Il s'en réjouit. Puis il passe au russe. Laborieuse d'abord, sa lecture se fait plus aisée. Et puis quelque chose, je cite, quelque chose de très chaud, de très précieux, enfoui au plus profond de lui, depuis son enfance à Moscou, le réchauffe et l'enchante. Il a choisi d'être français et il ne retournera jamais en Russie. Mais en même temps, il reste russe et l'essentiel de son œuvre immense est consacré à la Russie. Il a écrit 22 biographies concernant des personnages célèbres, 4 seulement concernent des paysages non russes. Des 7 grands cycles romanesques qui retracent une épopée familiale et historique, la saga qui s'intitule « Tant que la Terre vivra » est la plus existentielle. Il reprend le fil de sa lignée, les lieux de sa famille, Armavine, Ekaterinoda, Moscou, son enfance, les approches de la Révolution. Je voudrais le citer lui-même. En remettant son épée d'académicienne à Hélène Carrère-Dancos, il définira un phénomène qui le définit lui-même au premier chef. Je cite. C'est trop peu de parler en ce qui vous concerne d'une double culture. Il s'agit d'une manifestation plus importante et plus mystérieuse, une sorte de faculté de l'âme qui invite une personne, une même personne, d'être à la fois d'ici et d'ailleurs. Une autre allée que nous pourrons essayer d'emprunter, ce sont des pistes, ce n'est pas le dernier mot de ce riche sujet. Les aventuriers. Joseph Kessel est d'une certaine façon Romain Gary, appartiennent à cette famille. Joseph Kessel, grand voyageur et journaliste, résistant et écrivain, a puisé ses Russies dans son enfance à Orenbourg, sa mission de pilote volontaire avec le corps expéditionnaire français en Sibérie en 1918 et sa familiarité avec l'émigration russe à Paris. Talentueux, captivant, il ne recule cependant pas devant les clichés. Les deux recueils qui balisent son itinéraire russe, La Steppe Rouge en 1922 et Les Temps Sauvages en 1975, sont puissamment évocateurs. La Steppe Rouge évoque la fin d'un monde, le naufrage d'une civilisation, le dérèglement des hommes. Mais comment ne pas voir les clichés dans ce professeur de maths fanot et boiteux qui devient un cruel commissaire du peuple, puis un bandit meneur d'hommes à la Sainte-Thérèse, dans ce bourreau qui tombe amoureux d'une prostituée et la retrouve stupéfait au fond d'un caveau numéro 7 où il est censé l'exécuter. Et il tombe stupéfait à ses pieds pendant qu'elle le caresse au front. Si les héros de la littérature russe et de l'histoire russe avaient été convoqués pour décrire ou symboliser une littérature russe, une nature russe excessive et cruelle, christique et sacrificielle. Les temps sauvages qu'il écrit beaucoup plus tard et dans lesquels il revient vers son expérience sibérienne de 1918 sont beaucoup plus puissants. Et on oscille de l'horreur de ces gares jonchées de familles affamées, de ces wagons pleins de cadavres morts du typhus, au charme capiteux et interlope du cabaret Aquarelle. Romain Gary est plus qu'un aventurier, mais c'est aussi un aventurier et aussi un aviateur, comme Kessel, mais lui pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son plus beau livre pour moi est La promesse de l'aube, que Madame Anderlin a beaucoup étudié. C'est un hymne à une mère russe, elle aussi démesurée. Comme il dit, fille d'un horloger juif de la steppe russe. C'est une histoire de sa vie brillante, les tristesses de la pauvreté et de l'exil. Son imaginaire est façonné par les films du grand acteur Ivan Mastrouchkine, qui était un ami de sa mère. Je cite, « Il y joue des rôles de héros romantiques et de nobles aventuriers. Il sauve des empires, enlève à cheval de belles captives, subit sans broncher la torture au service du tsar. Les femmes meurent d'amour dans son sillage. J'en sors en frémissant à l'idée de tout ce que ma mère attend de moi. » Fin de citation. Je ne peux pas ne pas mentionner les politiques. C'est une autre allée encore pas assez explorée. Il est impossible de ne pas examiner dans son ensemble la galaxie des communistes. La place considérable du PCF en France au lendemain de la libération. Le prestige de l'URSS. Le développement de l'apprentissage de la langue russe en France. On nourrit un milieu très fécond et très divers. Des écrivains comme Elsa Triolet ou Dominique de Santi s'y sont développés. Même si chacune est plus qu'un écrivain engagé, et si leur corps ne peut être dissocié, je le redis, d'un milieu français très nombreux et très influent dans l'après-guerre. Il y a un autre camp, des écrivains qui ont perdu non seulement la Russie, mais surtout une autre révolution russe. Ils veulent révéler la face sombre de l'autre. Je les mentionnerai comme Victor Serge, dont il y aurait beaucoup à dire, ou Boris Souvarine, adversaire déclaré de Staline. Ils ne seront redécouverts qu'à la mesure du questionnement sur le système soviétique. Je voudrais dire rapidement que les différents écrivains dont nous parlons, peut-être pour lire les collines que nous décrivons, sont de différentes hauteurs. Nathalie Sarraute est un grand écrivain. Henri Troyat domine par les tirages, les honneurs, la popularité. C'est à la fin du XXe siècle l'écrivain préféré des Français. C'est un exploit, mais il ne sera pas le nouveau Tolstoï. Il y a aussi des oubliés, Zoé Oldenburg, très connue dans les années 50, ses romans inspirés du voyage français, des réprouvés, des démodés. Je voudrais finir par une pirouette. Leur rôle à tous et à chacun dans l'image de la Russie est encore difficile à apprécier. Presque tous, cependant, partagent ce que j'appellerais un invariant russe, une sorte de Russie éternelle, celle des contes ou celle des domaines de campagne. Je donnerai deux exemples de deux écrivains dont on n'aurait pas pu l'escompter. Le premier devait être avec nous aujourd'hui, c'est Michel Binaver. Il doit hélas être opéré et il n'a pas pu venir. Mais nous lui souhaitons une bonne santé et un prompt rétablissement. Il n'y a pas beaucoup de Russie dans son œuvre théâtrale, sa considérable œuvre théâtrale. Si on cherche bien, Iphigénie Hôtel a une tonalité qui rappelle Gorky, le Gorky des vacanciers, des Dachniks. Il était cadre puis directeur général chez Gillette. Son sujet, c'est l'entreprise, c'est l'emploi jetable. Mais il y a aussi les histoires de Rosalie, des contes russes écrits pour Delphine, Barbara, Ivan et Anouk, ses petits-enfants. Il y a des tempêtes de neige et des traîneaux, des bons et des méchants, des fêtes et des bêtises. Et ce n'est pas étonnant. Michel Binaver est le fils d'un grand antiquaire russe à Paris, puis à New York, à la vieille Russie. Et quand il doit écrire, quand il veut écrire pour ses petits-enfants des contes, c'est naturellement dans sa mémoire ancienne et familiale qu'il écrit. Le second exemple est celui plus inattendu encore de Nathalie Sarraute, qui est plus universelle dans ses explorations de nos tréfonds russes ou françaises. Cette fille d'un industriel juif de sensibilité socialiste qui quitte la Russie bien avant la Révolution, écrit en France très tard dans sa vie, en 1983, quand elle a 83 ans. Et elle le fait avec une telle réticence qu'elle doit faire dialoguer ces deux mois, l'un arrêtant, questionnant ou corrigeant l'autre. Mais elle doit bien décrire, avec mille précautions de langage, ce qu'elle appelle entre guillemets de beaux souvenirs d'enfance dans la maison de son oncle. Je cite, « Tout a conservé son exquise perfection. la vaste maison familiale près de Rocoin, la salle comme on les appelait dans les maisons de la vieille Russie, avec un grand piano à queue, des glaces partout, des parquets luisants, et tout le long des murs des chaises couvertes de rousse blanche. Les domestiques sont comme il se doit, gentiment, familiers, et des plaies, rien ne manque, même la vieille niagne, douce et molle dans son châle et ses jupes simples. Je ne vais pas continuer, ce n'est pas du Bounine, mais le tableau est reconnaissable, familier et délicieux. Un dernier mot pour finir, je ne doute pas qu'en lisant plus et plus d'auteurs, on ne trouve plus et d'autres Russies. Russie du cœur, Russie de l'esprit, transmise, inventée, réinventée. Merci beaucoup.
Спасибо, Ольга Семеновна. Сегодня... вот я сделаю действительно правильно. Я передам микрофон госпоже Татьяне Викторовой.
Merci beaucoup, madame Morel. Виктор Маскин passe le micro à madame Татьяна Викторова. Vous avez besoin de traduction, pardon?
Merci beaucoup, chère Ольга, pour cette brillante présentation. Et grâce à cette présentation, on présente tout de suite les enjeux de ce sujet et multiples pistes qui découlent. Et grâce à cette présentation, même Michel Vinaver était parmi nous. Et ici, je voudrais dire un petit mot. Il vient de se subir une opération, mais qui n'est pas très grave. Et surtout qu'il est très, très déçu de nous recevoir pour le citer. Et il espère vraiment que c'est le plaisir qui est reporté, parce que lui-même est très intéressé par ce sujet. Il trouve que c'est très passionnant de regarder son œuvre de ce point de vue. Et on vous espère beaucoup que cette rencontre aura lieu, on ne sait pas encore dans quel cadre, à Moscou, à Paris, peut-être à l'Université de Strasbourg. Mais en tout cas, c'est sans doute une des pistes tout à fait fécondes à explorer. Mais heureusement, nous avons quand même une possibilité aujourd'hui d'entendre la voix d'une excellente française d'origine russe. C'est Anne Oginbus.
Chélivière,
qui est l'auteur de plusieurs romans, notamment Triste Fantôme.
Sur ce qu'on a déjà écrit, je suis désolée, je rentre de Londres hier soir tard, donc j'avais la tête un peu à l'envers, je n'ai même pas pensé à porter un exemplaire de mon livre. C'est une très belle couverture bleue, faite pour inspirer une sorte de tristesse nostalgique pour un titre choisi par l'éditeur, les éditions du Rocher. Le titre, c'est « Triste printemps ». Triste parce que la nature elle-même est contre nous. Les printemps n'apportent pas leurs promesses. J'aurais pu dire « dramatique » ou « tragique printemps » parce qu'il s'agit de la vie de familles russes restées en Russie et qui ont écrit tout ce qui leur est arrivé, tantôt dans des lettres, tantôt dans des journaux, tantôt dans des échanges. Et entre le début du XXe siècle jusqu'à l'écroulement de l'URSS. Alors cette famille, c'est la mienne, celle du côté de mon père, et par différentes sources, j'ai reçu les lettres écrites en France par ma grand-mère, mon grand-père, et ensuite des oncles et des tantes. Alors ces lettres étaient écrites à divers correspondants parce qu'il n'était pas très bon d'écrire à des enfants qui avaient émigré en France. C'était très compromettant et dangereux pour ceux qui étaient restés, qui étaient seuls. Pouvaient être soupçonnés de connusion avec l'étranger ou d'espionnage. Alors ces histoires que racontaient ces lettres, je les ai toujours sues par oui-dire, parce que dans mon entourage, mes parents, leurs amis, mon père avait 17 ans quand il a quitté la Russie. solide, beaucoup de bon sens. Et avec ses amis, les conversations, évidemment, entre émigrés allaient toujours, comme on le sait, sur quelles sont les nouvelles de Russie, que se passe-t-il, qu'avez-vous entendu? Et alors, évidemment, les conversations à la table familiale étaient pour dire, mais il ne faut pas oublier que l'instruction publique en 1914 était plus développée qu'elle ne l'était en 1950 et quelques, ou 40 plutôt. Donc, j'ai toujours eu ce climat familial. Et quand j'étais en possession de ces lettres, j'ai pensé qu'il fallait absolument les faire connaître. Les faire connaître pour montrer d'abord ce que les gens avaient subi, ce qu'ils avaient subi avec courage, avec inventivité et avec beaucoup de ressources culturelles. Alors, les lettres étaient aussi assez intéressantes parce qu'elles répondaient à des lettres qui venaient de France et que je n'ai pas lues en ma possession. Mais on disait, vous ne nous croyez pas, mais vous savez, c'est vrai tout de même ce que nous vous disons sur la faim, sur les pissenlits qu'on mange par la racine, c'est une expression littéraire, les redingotes de sapin, les gens qui s'allongent le long des routes pour mourir sous les ifs. Donc le langage des hommes était là. Et comme j'étais historienne, j'ai pensé que les dessous de la grande histoire était tout aussi intéressant que l'histoire elle-même. Alors je travaillais beaucoup sur les archives, les archives diplomatiques françaises que je contribue à publier. Et en contrepoint de cette grande histoire officielle, il y a la petite histoire des gens. L'histoire de ce qu'ils ont subi, pensé, et qu'on a rarement su. Alors ces dernières années, on a eu plusieurs ouvrages américains, par exemple Les Chuchoteurs, ou quelques autres études sur ce qui avait été la vie des gens qui avaient été envoyés, des enfants envoyés dans des orphelinats. Et là, j'avais une source qui s'inscrivait vraiment très bien dans l'histoire franco-russe, parce que les lettres étaient écrites en français et touchaient à des événements qui se produisaient en France. Elles étaient écrites par une femme qui avait quitté la France dans les années 1890, qui avait épousé un Russe et qui avait adopté la religion orthodoxe et qui était devenue très russe elle-même. C'était une famille libérale, son mari était fonctionnaire. Il avait porté la cocarde rouge en février 1917. Il s'en est repenti par la suite. Alors cette famille a été complètement coupée de toute ressource, livrée à elle-même. Elle a survécu avec 6 enfants. Donc c'est le sort de ses enfants, de l'effort des parents pour donner une éducation et une culture correspondant à la leur à ses enfants. Et ils y ont assez bien réussi, en témoigne à la génération suivante, parmi les diverses arrestations des enfants, la plus prenante est celle de la fille qui a été arrêtée en 1939, en 1941, au moment de l'invasion allemande en Russie, comme beaucoup de gens qui risquaient, dont on avait peur qu'ils ne collaborent avec l'ennemi, et qui était envoyé pour 13 ans dans un camp dans le Kazakhstan. Et donc ce récit continue avec l'histoire racontée par cette jeune femme qui est devenue une vraie matrone à la sortie du camp, qu'elle voulait publier. Alors c'est un peu difficile de traduire 800 pages de manuscrit
inscrit, j'avais essayé avec Nikita Strouv pour voir s'il y avait marché. J'ai reçu ce texte dans les années 80, elle me l'a donné, elle me l'a confié pour le faire éditer. Je n'y suis pas arrivé, donc je voulais absolument le faire connaître. Et dans ce récit, ce qui m'a frappé le plus, c'était le manque d'animosité contre le sort qui lui était réservé. Alors évidemment, elle en voulait aux autorités, mais elle était profondément patriote, elle suivait le cours de la guerre comme elle le pouvait, et ce qui était sidérant, c'était la confiance en soi, la sorte de la bonté et le courage dont elle avait fait preuve. Elle avait lu des conférences sur Victor Hugo, raconter Les Misérables, raconter Notre-Dame de Paris, donc transmettre la culture dont elle avait la charge. Elle est arrivée, elle est revenue du camp, évidemment son mari l'avait quittée. Sa fille, entre-temps, était devenue pianiste de la troisième génération. C'est celle qui nous mène à Tchernobyl, où malheureusement, un jour, elle avait décidé, donc la mère avec sa fille, avait décidé d'aller passer un week-end. Bon, la fille en est revenue avec un cancer et la vie de la troisième génération a été la plus triste parce que le bagage entre-temps s'était effrité et je pense que nous avons nous maintenant ce bagage en dépôt. Et c'est ce que nous essayons de rendre à travers le pont qui nous est offert. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup, Charles, pour ce témoignage tout à fait passionnant. Nous voudrions maintenant vous passer la parole à Evelyne van der Leyen, que j'ai l'impression que tout le monde la connaît, pas besoin même de la présenter. Je vous rappelle juste que elle est... Vous voulez dire un parole?
Non, 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 c'est pour passer.
Ah, non, non.
Je suis très vexée, très peinée. Je vous demande de m'excuser. Et j'ai donc demandé à Svetlana de bien vouloir lire mon texte. Je vais l'aider, mais je vous demande toute votre compréhension.
Merci, merci Evelyne. Et donc, les écrivains frappent russes. Nombreux sont les écrivains d'origine russe, immigrés ou non, créés à un moment ou l'autre. L'autre de leur carrière ont choisi le français comme langue d'expression scripturale. Il ne s'agit là nullement d'un phénomène récent. Avant la révolution d'octobre, encore n'est pas compris, était majoritaire dans la noblesse russe, le français étant la langue vernaculaire. À ce sujet, l'ouvrage de Grégoire Guémandi, Les écrivains franco-russes, biographie des ouvrages français publiés. Et par des Russes, 1874, répertoire des écrits, tant épistolier que scientifique ou fictionnel, paru jusqu'aux trois quarts du 19e siècle. Cette biographie établit une longue tradition de Russes écrivant leurs ouvrages en français. Parmi eux figurent les plus grands, Cantemir, diplomate et homme de lettres, Dejavine, le plus grand poète russe avant Pouchkine, Fombizine, dont les pièces de théâtre sont encore jouées de nos jours, Lomonosov, le fondateur de l'université de Moscou portant son nom, Radichev, exilé en Sibérie sous Catherine II, pour ces descriptions socio-économiques contre régime. Soumarokov, l'auteur du livret d'Alceste, le second opéra mis en musique sur un texte russe, et Tredyakovsky, critique littéraire et poète. Tchikhachov, géologue et naturaliste. On pourrait adjoindre la comtesse de Ségur, de Rostopchine, et Zinaïda Volkonskaya, salonnière et femme de lettres. Quant à la comtesse de Ségur, elle partage avec Sade le privilège d'avoir, je cite, réussi à imposer son titre nobiliaire à la postérité. Fin de la citation. Elle a commencé sa carrière avec les ouvrages prosaïques sur la santé et des conseils d'hygiène destinés aux jeunes mères. La comtesse, par son apport d'un souffle nouveau, aura une grande influence dans l'univers de la littérature pour enfants au XIXe siècle. Ses romans à tendance éducative seront lus majoritairement par les préadolescents et les adolescents jusqu'au milieu du XXe siècle. Revenons au plus grand. Pouchkine écrit ses premiers vers en français et les géants du roman russe. Tolstoï avec Guerre et Paix, Turgenev, installé en France, traducteur de plusieurs auteurs russes et auteur de deux récits dictés à Pauline Viardot, Une fin et un incendie en mer. Et Dostoïevski qui traduisit Eugénie Grandet en russe. La tradition des relations ici, c'est quoi ?
Poursuivre.
Et poursuivre la tradition des relations interculturelles et littéraires au XIXe siècle. Citons Alexandre Bloch, traduisant Ruth Boeuf et étudiant la littérature courtoise du Moyen-Âge français. Pour ces écrivains, l'Europe occidentale, et en particulier la France, représente un modèle culturel. Toutefois, ce modèle est loin d'être préconisé par tous, ni même admiré. En effet, la présence de deux camps se distingue. D'une part, celui des admirateurs de l'Occident, et d'autre, celui des slavophiles. Ces auteurs ont indéniablement enrichi la civilisation européenne grâce aux relations interculturelles ainsi que de nombreuses migrations. Au XXe siècle, avec la révolution de 1917, ce mouvement vers l'Europe, plus ou moins forcé, s'intensifie et entraîne l'exil d'un grand nombre d'habitants, avec parmi eux plusieurs écrivains. Ainsi apparaissent en Europe occidentale d'autres écrivains, chassés par le bolchevisme, immigrés s'installant en France. Certains le font en tant qu'adultes, tels Arthur Adamov, Michel Matveyev, Elsa Triolet et Valérie Afanassiev. D'autres suivent la volonté de leurs parents, comme André Troya, Dominique Arban, Romain Gary. D'autres encore partiront longtemps après la Révolution, une fois le régime soviétique bien en place, que ce fut une décision parentale ou la leur. Tel fut le cas de Piotr Havitch, Sylvie Tekutov, Dmitri Merezhkovski. Parmi ces auteurs entrent de langue, d'autres enfin forment ce que l'on appelle communément les émigrés de seconde génération, nés dans le pays hospitalier des parents. Yegor Gran et Jean-Pierre Milovanov, Vladimir Volkov en sont un exemple. D'autres enfants viendront en France au moment de la perestroïka, comme par exemple André Malkin, dont toute la jeunesse, l'adolescence et la formation de jeunes universitaires se situent en Union soviétique. Ou bien Vladimir Fedorovski, ancien diplomate soviétique et historien, reconverti à l'écriture. Pour la plupart de ces auteurs, le choix de la France comme pays d'adoption est partiellement dicté par leur connaissance du français. Tous ces auteurs ne sont pas des écrivains à part entière. Certains exercent simultanément ou consécutivement dans d'autres domaines que la littérature. Ainsi, bien que familier des milieux diplomatiques, Pierre Tchikhachov se consacra aux sciences naturelles et publia son œuvre scientifique à Paris sous forme de mémoire ou de récits de voyage. Le peintre Serge Chachon fréquentait les milieux dadaïstes, d'où il tira son inspiration pour Foule immobile et différents textes au français quelque peu malmenés. Le panorama littéraire offert par les écrivains franco-russes est riche et varié, tant sur la forme que sur le contenu. Une étude approfondie pourrait rechercher la présence d'éventuelles spécificités communes à ces auteurs partageant une langue maternelle et le choix à raison multiple d'une langue d'écriture. Ce qui les différencie en tant que groupe est la longévité et la nature des relations franco-russes qui se sont toujours déroulées entre les les deux pays sur un pied d'égalité, ce qui n'est nullement le cas pour les auteurs issus de l'espace francophone des territoires ex-coloniaux. Les relations franco-russes s'établissent dès le XIe siècle, lorsque Anna, fille de Yaroslav Losage, épouse le roi de France Henri Ier. Se déroulant au fil des siècles, ces relations ne furent pas exemptes de tout incident, mais néanmoins persistèrent harmonie et bonne entente. Makin, dans le Testament français, citant José Maria de Heredia, va jusqu'à parler de, je cite, tournoi sans haine, pour décrire les terribles guerres napoléoniennes de 1812. Les Russes, héritiers d'une tradition appuyée sur des bases d'échanges culturels, littéraires et sociaux, d'égal à égal, cajolent ce français à eux et le manient avec tendresse. Par exemple, Romain Gary, Henri Troya, André Makin ont amplement l'éloge de la langue française. Tout autre est l'attitude des auteurs francophones, issus d'une situation coloniale vécue comme traumatique, ou du moins comme une source d'inégalité entre dominants et dominés, dans une période où le français fut une langue imposée par le colonisateur et non choisie. Il y a donc souvent à l'intérieur du texte une situation conflictuelle qui engendre une relation particulière aux Français. Beaucoup d'entre eux semblent en effet ressentir le besoin de faire violence à une langue, à la fois héritée et imposée, langue d'écriture et d'expression, certes, mais aussi langue de l'ex-colonisateur, langue qu'il faut utiliser, mais langue créolisée, langue malmenée, langue marquée, pourrait-on dire, afin de la reposséder pleinement. Parmi les autres auteurs non issus de la situation coloniale, mais dont le choix du français en tant que langue d'expression scripturale est libre, Beckett, Turin, Siouan, Kundera, sans être la langue officielle de leur pays d'origine, la condition des auteurs francophones est tout à fait exceptionnelle. Elle s'inscrit dans une situation où le choix, bien que libre et d'origine sociale, s'insère dans une longue tradition littéraire, historique et culturelle, la tradition francophone. Il me semble particulièrement intéressant de mettre le doigt sur cette spécificité des écrivains franco-russes et de stimuler vers la même une approche comparativiste de notre projet. Merci.
Merci beaucoup à la présentation de l'Anne pour sa lecture.
Mais peut-être nous aurons le temps pour une ou deux questions. J'imagine que, en tout cas, on espère beaucoup qu'il y a des idées, il y a des échanges, des remarques dans la salle. Je vais vous donner tout de suite la parole.
Gérard, je
suis sûr que vous avez.
Merci. Non, j'ai une petite remarque à propos de l'exposé de Morel, parce que il y a quelques années, je visitais l'université de Ivan, Novorossiysk. Et il y avait un petit musée littéraire, et j'ai eu la grande surprise, on m'a montré l'art de naissance de Nathalie Sarraute. Parce qu'elle était née dans un portefeuille, c'était pas loin de là. Et voilà, ça m'a fait une grande surprise, je ne m'attendais pas. Mais j'ai l'impression qu'elle est partie assez rapidement. Elle. Je pense pas qu'elle soit. Je pense que sa description de la Russie que vous avez décrite était plutôt imaginaire, je pense. Mais...
C'est moins la bataille en creux, mais c'est une pépite de son enfance. C'est les visites chez l'oncle. Je disais bien qu'il y avait de la place aussi pour la Russie inventée voilà, et réinventée.
Juste deux mots pour dire ce qui fait peut-être la différence entre les écrivains d'origine russe qui écrivent sur la Russie et les écrivains français. Il y en a beaucoup qui ont fait des voyages récemment, qui ont découvert de grands espaces, qui ont essayé de découvrir des secrets. C'est que les écrivains d'origine russe reconnaissent à quelque chose de une note russe et à laquelle on est sensible parce que quand on lit, à un certain moment, on dit « Mais oui, c'est vrai, il a vraiment pensé ça et ça a été comme ça. » Et c'est la chose que j'apprécie dans les romans de Makin.
beaucoup d'histoire et la note est là.
Merci beaucoup, chère Anne. C'est une remarquable conclusion. C'est vraiment le nœud de notre sujet. Et c'est pour cette raison que nous parlons de la présence russe dans l'œuvre de cette écrivaine. Parce qu'il y a quelque chose de presque insaisissable. À la fois, on le sent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, dames et messieurs. Мы заканчиваем и до новых встреч, поскольку эта тема будет продолжаться и в Москве, в Доме русского зарубежья, и, надеюсь, и, конечно, в Страсбурге, и, надеюсь, что и в Париже, и, наверное, это все-таки только начало сегодняшней нашей круглой стол, после конференции, это второе действие, а пьеса, я думаю, будет очень большой.